Louis Althusser, Lettre à Hélène, 1947, lettre manuscrite, vendredi. Salut petit, on pense à vous à chaque instant, cœur et bras et mains, et la poitrine où le souffle naît, la bouche où il devient ciel, les yeux qui vous contemplent dans leur nuit, et la peau où le corps connaît sa forme, et découvre la vôtre. Ici, un rare temps où mon père, pour la première fois, m'est rendu comme un homme, jeune et l'esprit plein de pensées, où l'avenir se découvre quand on l'y cherche. Si vous l'avez compris avant que je l'écrive, le père ne change en homme que s'il reconnaît l'homme dans le fils. On espère que ces signes sont sérieux, dans cette verdure intense de la terre. Salut, mon petit, entre mes bras. Un cheval court sur la route. Je ne crois pas à la littérature, mais les bruits du monde sont bons à entendre quand ils annoncent la naissance du monde des hommes. Salut, camarade aimé. On pense à vous, dans la chaleur du corps et des pensées. L'effort des hommes et leur bonheur proche, et même l'âge des grands-mères qui ne demandent qu'à vivre assez pour voir leurs petits vivre. Il y a de la place sur cette feuille encore, elle est pour toi, qui dans le blanc cherchera les pensées qui veillent sur ces mots et les protègent et les protégeront. Je te serre tendrement dans mes bras, ma petite camarade vivante. Louis. 1947, lettre manuscrite. Vendredi 2h. Chère Hélène, les choses sont plus compliquées que je ne pensais. Rambourg me paraît avoir dit à Madame Labrousse, infirmière, que c'est mal qui doit me traiter. Résultat, ce matin, comme je demande à discuter visite avec la doctoresse, on me dit « c'est du ressort de mal ». On va le voir, il est absent, lui laisse un mot pour demain afin qu'il vienne me visiter. Si par hasard, mal n'est pas d'accord pour s'occuper de moi, c'est possible après tout puisque je ne suis pas dans son service, ça nous fera encore du temps perdu. De toute façon, si vous recevez un coup de fil de mon ami, j'espère que ce sera pour vous apprendre que vous pouvez venir sous votre nom. Sinon, si vous en avez le temps et le désir, venez sous un faux nom, voire Straub. C'est-à-dire, si vous ne recevez d'ici dimanche que ce mot-ci, fraudez en toute conscience. J'ai assez bien dormi cette nuit, mais suis passablement abruti ce matin. Esprit et yeux sans contenu. Saute dans le regard. Saute aussi dans l'attention. On a failli me faire un choc ce matin, anticipant sur celui de demain, mais ce sera pour demain seulement. Il pleut. Le père Straub pleure toutes les larmes sur sa santé qu'il voit perdue. Je lui dis que pleurer tout ce qu'on pleure, c'est toujours ça de moins à pleurer. Pour moi, je ne suis pas plus fier pour autant dans ce rôle quand je pense que je suis ici depuis un mois. Le temps n'a plus de dimension. Les événements ont un sens si court et si restreint. Si peu d'ombre. Je n'ose pas croire à l'avenir. Il est trop mince encore. Il n'y a pas de perspective. Et être à la merci d'une chose ou d'une crise de larmes, brrr. Salut Hélène et Georgette. Je tâcherai de faire de mon mieux pour avoir apparence humaine. Ayez patience et permettez que je vous embrasse. Louis. 1951, lettre manuscrite en tête de l'école normale supérieure. Vendredi. Ma bistoufle de chourin ce mot vendredi, après vélo, bain, soleil, malgré le vent très vif d'est qui soufflait pour vous saluer de loin, distance, et de près, cœur. Ça a l'air d'aller. La vie de pure végétation. Hier matin, je suis allé en vélo à la gare de Fresnay, col à 500 mètres d'altitude dans les Maures, 30 kilomètres d'ici. Bel exploit qui m'a rappelé l'escalade de la grande côte de Château-Chinon. Saint-Tropez, toujours mi-vide et sans population intéressante. j'ai changé de couleur et dû maigrir. Enfin, je fais mon possible et mon devoir. Je me dis que peut-être j'aurai un mot de toi demain et je me demande si tu ne m'as pas téléphoné. Le préposé n'a pas pu me dire si ça venait de Marseille ou de Paris, si jamais t'en avais besoin. Car en vie, ça coûte cher, de bonheur. Sache que tu as des chances de me joindre le matin avant 9h. Je suis pratiquement réveillé vers 6h30 et levé vers 7h30. Après 9h, vélo. Puis je reviens vers 11h30, 12h et pars à la plage. Retour vers 16h30, 17h, puis vadrouille. Cela à tout hasard. Je voudrais bien savoir comment tu vas. Dents, travail et cœur. Je souligne l'important en ordre de valeur. Je t'envoie une fleur cueillie pour toi. Et je t'embrasse, petite tête, de tout cœur. Louis. 1953, lettre manuscrite. 24 octobre 1953. Hélène. Il faut que je te dise une chose. Tu m'as reproché vivement mon indifférence et mon manque de cœur devant ta souffrance, et tu as rappelé pour juger la mienne ta conduite quand c'est moi qui n'allais pas bien. Tu ne mesures peut-être pas bien le mal que ce genre de comparaison peut faire. C'est une autre chose. Et quand je parle de mal, c'est autant à toi qu'à moi que je pense. Voici ce que je veux dire. Tu peux me reprocher bien des choses. Et la première, de ne pas t'aimer comme tu voudrais que je le fasse. Mais tu ne peux pas me reprocher de ne pas t'avoir aidé, soutenu, de toutes mes forces et de tout mon cœur à travers tes épreuves très dures. Tu vas mieux maintenant. Bien des choses sont plus faciles, même s'il en reste d'importantes, qui sont très épouvantes. Éprouvantes. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tu te connais mieux aussi et tu es capable de faire face aux difficultés. Cela n'empêchera que parfois tu butes sur des problèmes douloureux et qui sont horriblement difficiles à résoudre. Que tu m'appelles pour t'aider, rien de plus naturel et rien que je ne désire plus. Mais je veux aujourd'hui te dire que cet appel prend parfois une forme qui m'est presque intolérable aujourd'hui. Je ne peux pas supporter qu'en m'appelant à l'aide pour affronter un problème, tu sois tenté de détourner encore sur moi et contre moi ton angoisse et ta colère. Il y avait un temps où j'en avais la terreur, mais aussi le besoin. Or, je n'en suis plus là. Je crois aussi profondément que tu n'en es plus là non plus. Mais le fait est que pratiquement tu ne peux toujours éviter cette conduite et je sais bien qu'on n'abandonne pas du jour au lendemain sa vieille peau. Or, c'est un fait aussi que cette conduite me paraît aujourd'hui en grande partie anachronique et régressive et que je n'ai ni l'intention d'en être le complice, ni le cœur de l'encourager. Il faut que tu saches quels efforts sur moi je dois faire pour ne pas, pour passer sur cette forme. Il arrive que toutes mes forces y passent, pour notre dommage commun. Alors, on peut interpréter ce fait de 10 façons, de la pire et de la meilleure. Il vaut mieux d'abord le connaître. Alors, j'étais tout prêt à venir te voir hier soir. Tu sais maintenant pourquoi je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un saint. Je crois que je devais te dire à quel point précis les choses accrochent parfois entre nous, à quel point en moi. Ceci n'est pas une façon de te renvoyer la balle et la responsabilité. Ce point en moi est ainsi aujourd'hui. Il peut changer. Mais il faut, je crois, le connaître pour ne pas croire que le ciel nous menace. Parce qu'il n'y a pas que ce point en moi. Il y a aussi du ciel et de la chaleur. Je pense que tu le sais, comme moi. Louis. 1955. Lettre manuscrite en tête de l'école normale supérieure. Septembre. Mercredi. Hélène, d'accord pour t'écrire plus souvent, d'accord pour laisser de côté le passionnel et m'adresser à toi au titre de l'amitié. J'ai besoin de t'écrire et de recevoir tes lettres. Pour l'amitié, C'est un fond qui ne peut nous manquer, même si les doutes ou les épreuves nous assaillent. Je ne vois rien d'indigne ni d'inquiétant à reprendre pied sur cette terre. Rien d'impossible non plus. Il me semble que j'ai maintenant assez de force pour garder pour moi ce qui ne relève pas des lois de ce domaine et jusqu'au sentiment que ta lettre a remué au fond de mon cœur. Ce qui suit, je te le dis donc d'homme à homme et te prie comme tu le désires de l'entendre comme tel. Ce que j'aime en toi, ce que j'ai toujours aimé dès le début, dès la première neige et le premier soir devant le feu de bois, était-il bien de bois, j'en vois encore la flamme, de la rue Lepic. Ce que j'ai toujours aimé, même quand les excès, ou ce qui me semblait tel, me prenaient d'une terreur presque sacrée, c'est ta générosité et ta liberté. Je ne sais pas si tu imagines le prix de cette révélation pour un garçon qui avait grandi pendant 27 ans, entre les haies des camps, des interdits, des devoirs et des tâches. Une générosité sans condition, qu'on ne demande à rien en retour, pas même l'idée du devoir accompli ou de la satisfaction intérieure de soi. Une liberté d'invention, de gestes, de mouvements, d'extravagance même, de drôlerie, de colère aussi, de cœur et de tête qui ne fut pas concertée, délibérée, artifice de la volonté, mais nature tout court et spontanéité. Mon monde à l'envers, quoi. Et le monde que je désirais par-dessus tout, au fond de mes entraves et de mes entrailles. Et sans doute aussi j'avais une peur intense quelque part en moi de ce monde que je désirais de toute mon âme. La peur justement qui me retenait pieds et poings liés au seuil de cette liberté que j'avais fini par me refuser à force d'en être exclu. Cette peur, je te l'ai fait subir et payer comme une passion attachée à l'objet même de son aspiration la plus profonde. Et je te la fais encore, sans doute payée, maintenant que je la connais. L'appelle par son nom et combat contre elle avec de vraies armes. Elle est parfois encore plus forte que moi, plus forte que nous. Il me semble pourtant qu'elle cède, qu'elle a déjà perdu bien du terrain et que je gagne peu à peu le droit de vivre dans ce monde autrefois interdit. Ce que je veux te dire, c'est que de cette lutte dont tu as été l'exemple, le témoin et l'enjeu tout à la fois, je ne sois pas seul et délivré des raisons qui l'ont provoquée. J'ai aimé dès le début en toi ta générosité et ta liberté. Ce n'était pas seulement l'envers de mon monde ou mon monde à l'envers. Tout cela n'a pas disparu dans le chemin que j'ai parcouru. Je veux dire que ce n'est pas une idée abstraite que j'ai aimée en toi, ni même une façon d'être libre et d'avoir du cœur. Si tu veux, il me semble que je ne peux pas te séparer de cette idée, de cette liberté et de ce cœur. Voilà ce que j'entends quand je dis, depuis le début, j'ai aimé en toi. Cela veut dire, j'aime toujours en toi, ta liberté, ta générosité. Cela veut dire, je t'aime, comme tu es, malgré nos disputes et nos blessures, malgré ces combats où nous nous défigurons, dans tous les sens du terme, comme tu es. Râleuse et pleine de cœur et d'imagination et même de folie et même dans tes excès quand il t'en prend, il me semble que c'est un terrain solide. Non ? Et puisque nous parlons d'homme à homme, il faut que je te dise que je suis passé par Marseille, que j'y ai trouvé ma mère dans un état assez épouvantable, maigre à faire frémir, décomposée, en proie à migraines ininterrompues, etc. Le climat de l'été avait à Marseille été très dur. Je l'ai amené sur le champ et déposé près du lac de Castillon, barrage du Verdon, dans un petit village que j'ai trouvé à 1000 mètres d'altitude dans les prés et les bois d'une sorte de petite Alpe. Elle s'y est trouvée bien. Tout cela a pris du temps et donné du souci. Je ne sais trop que faire. Ensuite, mon père est toujours dans tous ses états quand ma mère est malade. Faudra aviser. Je profite au mieux du soleil et de la mer ici. C'est un peu cher, ça n'a pas d'importance. Je crois que c'est une bonne solution. Il m'a fallu plusieurs jours pour la trouver et aussi pour trouver mon assiette, me remettre de cet état fébrile, rendre à l'âme un peu de paix, tout simplement la paix qui vient de l'idée de vacances acceptées, sans chercher au-delà. Je crois que j'y suis parvenu. Je ne fais strictement rien que prendre des bains de mer et de soleil, et lire du Balzac emprunté à Marseille au passage, et manger, merveilleusement. C'est vraiment un coin de la côte épatant. Je crois que j'aurai des forces pour reprendre le boulot. J'ai fait une folie, vive les folies. Je me suis acheté un short en lin blanc, à ma taille, qui me va comme un gant. Alors je vous laisse juger du mérite et du sens de cette initiative. Comme je tiens à ce que tu aies ce mot, demain je vais courir le mettre à la boîte de Saint-Tropez. Mais encore un mot, je n'ai pas vu, n'ayant pas lu tous les mondes, l'article de Baron Selly. Fais-moi un extrait, veux-tu, j'en serais bien heureux. Salut, petite tête, on t'embrasse bien. Louis. 1958, lettre dactylographiée en tête de l'École normale supérieure. Le 28 août 1958, jeudi 13h. Mon tendre Chourin, quand vous recevrez ce mot, je serai sur la route, et peut-être déjà assez loin. Je n'ai pas souvenir d'être jamais parti le cœur si léger et si plein. Je crois que tu le sais, mais il n'est pas inutile de le dire, surtout quand je le dis, moi qui sais si mal dire ce qui crève les yeux. J'espère qu'un peu de vrai bonheur t'est venu de ce mois qui a passé sans que je le voie, sans autre obstacle que des problèmes à résoudre, et dans une sorte de joie qui n'était plus de la passion, mais de l'intérêt tout simplement et tout vivant. Et tu sais aussi la place que tu as tenue dans ces moments, celle de quelqu'un de très cher, qui me comprenait mieux que moi-même, savait entendre à demi-mot, parler quand il le fallait, dire les mots justes, et me laisser en face de moi aussi, quand c'était nécessaire. La confiance que tu m'as faite, et que tu m'as faite depuis si longtemps, depuis les tout débuts, quand je doutais que personne pût me la faire, et que si longtemps j'ai si mal payé de retour, te rendant trop souvent contre elle un silence buté, ou pis le mal que d'autres m'avaient fait, il me semble que je commence à te la rendre. Et je suis bien payé de voir que tu peux en ressentir un peu de vrai bonheur. Je crois que nous pouvons être assez fiers de ce bonheur enfin gagné, parce qu'à part Laurent, qui a eu tout le discernement qu'il fallait, et peut-être deux ou trois amis, nous sommes bien seuls à l'avoir voulu et à l'avoir conquis. Je te disais ces derniers mois, quand les choses étaient encore parfois difficiles et de cette difficulté exaspérée qui sent que la partie est perdue pour la cause qu'elle défend, que je sentais que de mon côté, les choses étaient en train de changer. Sans doute elles avaient encore cette allure double et ambiguë qui fait qu'on peut hésiter dans quel sens il faut le tirer, autorisant de vieilles hypothèses trop longtemps vivantes. Et je n'avais pour toute certitude que ce sentiment d'être sorti des vieilles ornières, sans pouvoir encore en donner vraiment la preuve, n'ayant que lui, si subjectif, à opposer à nos craintes. Mais il me semble maintenant que je ne me suis pas trompé, puisque nous avons eu tous deux des preuves sensibles entre les mains. Je crois que tu peux m'aimer sans crainte, petite tête, parce que je n'ai plus du tout peur de t'aimer et de te le dire. Et même si tout ce que tu rêvais n'a pas pris exactement la forme attendue, du moins nous en avons trouvé une qui est assez belle et bonne et peut donner un sens assez profond à notre vie. En tout cas, je veux te dire que je ne conçois pas ma vie sans toi. Je suis parti dans cette pensée que je veux que tu saches, bien que tu la connaisses déjà. Mais il est bon de dire les choses les plus évidentes, comme il m'a été bon de te dire que j'aimerais que tu me rejoignes dans le midi à la fin de ce mois. Ne faut plus que l'avenir soit désormais notre ennemi, même par le silence dont on peut l'entourer. Je t'aime de tout mon cœur, petite tête, et je t'embrasse. Louis. 1958... Lettre dactylographiée. Vendredi, 10h. Chourin. Je veux te donner quelques indications venant de moi pour te dire comment les choses se situent et quel sens elles ont pour moi lorsque se déclenchent ces mécanismes qui nous opposent. Ce n'est pas pour le plaisir de parler de moi, ni pour prétendre que tout se rapporte à moi dans ces impasses. Mais je crois qu'il n'est pas inutile de tenter de faire ce point, et dans ce moment présent, vendredi 10h, avant d'avoir vu Laurent, à qui je parlerai naturellement de tout cela. Je crois que je t'ai imposé dans les dernières années, et sans doute dès le début ou presque de nos relations, une infinité de brimades. Je t'ai brimé pour ta maladresse, je t'ai brimé pour tes tâches, je t'ai brimé pour ta façon de t'habiller, je t'ai brimé en te coupant la parole devant des tiers, et ce qui est pis, sans que personne ne fût là entre nous, en montrant de l'impatience quand tu parlais, je t'ai brimé pour tes sauces de salade, je t'ai brimé, et c'est sans doute le plus important, en me montrant sceptique à l'égard d'un certain nombre de tes projets, ta capacité à l'endroit de l'italien, par exemple, de tes jugements, ce que tu pensais du monde du cinéma, par exemple, voire de tes capacités de transformation. Alors cela fait une jolie somme. Et je pense que tu as dû éprouver cette accumulation de réserves et de blessures, voire de revanches qui sans doute n'étaient pas adressées à toi en personne, mais qui t'atteignaient tout de même avec la même précision et la même efficacité que si elles te visaient en personne, avec une amertume profonde, d'autant plus profonde que tu sentais que tu n'étais pas en cause en vérité, mais que cela ne m'empêchait pas de m'acharner sur toi. Amertume et sentiments d'injustice que je comprends qu'ils ont pu te révolter contre moi et contre la vie que je te faisais mener pour régler sur toi des comptes qui ne te concernaient pas. Je voudrais te dire que je crois que je ne suis plus le même inconscient. Je sais maintenant fort bien qui ces brimades visaient. Nous savons que c'est ma mère. Il n'y a plus le moindre doute là-dessus. Je crois que tu t'es rendu compte aussi, non seulement en théorie, mais dans la pratique, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, que la plupart des brimades que je t'ai rappelées ont cessé. Je crois que tu peux le reconnaître. Il y a peut-être encore quelques traces, mais ce sont des ombres en voie de disparition. Il me semble vraiment que tous les chefs de brimades que j'ai cités ne sont plus actuels et que je ne te confonds plus avec les personnes à qui je les destinais. Mais il reste cependant un point sensible qui, lui, n'a pas encore disparu et qui réveille en moi, et par contre-coup en toi, de vieilles souffrances, de vieilles intolérances. Alors laisse-moi te dire cela, je puis me tromper, mais c'est d'une erreur exprimée qu'après tout, on peut espérer un peu de vérité, et pas du silence. Vois ce qui s'est passé hier. Je m'allonge. Tu viens vers moi en prenant ce fauteuil. Je te dis, ne prends pas ce fauteuil. Et là, je ne crois pas avoir été vif de ton, c'est aussitôt après que je l'ai été, tu vas voir. Il est trop vieux. Cette phrase déclenche en toi une réaction d'affliction, sentiment d'incompréhension de ma part. Voilà qu'il recommence à me brimer, comme si tu atteignais les limites du tolérable et de l'intolérable. Ton visage se ferme, Ton visage a une extraordinaire éloquence dans le changement d'expression. Littéralement, visage de souffrance subie. Et tu dis que tu es très fatigué. C'est là que j'ai eu une réaction vive, presque violente. Je me suis levé et t'ai dit presque criant, mais je vais t'en donner un autre, je vais t'en chercher un autre. Il suffit de le demander. Et me levant aussi vite, c'est comme si je voulais te faire la démonstration que bien que fatigué moi aussi, je pouvais quand même te donner un fauteuil, ou en tout cas que ce n'était une question sans importance qu'on pouvait régler dans l'espace de quelques minutes, d'un ou deux gestes, et qu'il ne valait pas la peine de lui donner cette importance et d'en souffrir autant. Tout cela, naturellement, pas raisonné du tout. Dans le mouvement de la réaction, de la passion. C'est cette passion que je voudrais éclairer. Ah, bien sûr, tout ceci est idiot. Et j'aurais dû ne rien te dire pour ce fauteuil. Disons qu'il y a eu de ma part ce mot pour le fauteuil, vieille trace des brimades ci-dessus, d'autant plus vieille et sans saveur que c'est à tout le monde, et pas à toi seulement, que je dis « ne vous asseyez pas dans ce fauteuil, il est trop fragile », à tout le monde. Tu peux le croire. J'ai l'impression de m'être fait prendre sur l'apparence de la solidité, et je veux la préserver en interdisant l'usage de ce fauteuil à tous ceux qui le voient. Et à côté du mot sur le fauteuil qui a déclenché chez toi la réaction souffrance, brimade, injustice, il y a eu, et c'est la plus sérieuse, ma réaction vive à ta réaction, quand je me suis levé en criant pour te donner une chaise. Alors là, je crois que c'est encore réel. Je veux dire que c'est le seul point où il ne s'agit pas que de traces en voie de dissipation. Je crois que j'ai là une réaction encore vive. Et je voudrais te dire à quoi il me semble qu'elle tient. Je dis les choses brutalement, ne m'en tiens pas rigueur, petite tête, c'est le seul moyen d'en sortir. Cette réaction que j'ai, je crois qu'elle résume, ou rappelle, ou réactive, comme on voudra, toutes les réactions du gosse que j'ai été devant une certaine tête de ma mère, la tête de la femme martyre souffrante sacrifiée, offerte en témoignage de son martyre. Et au fond, tout ce que ma mère m'a imposé, m'a fait subir, tout a tenu à cette forme de chantage, car c'était chez elle réellement un chantage, et c'est sans doute pourquoi alors que pour l'essentiel, toutes les autres réactions d'intolérance ont disparu, ont perdu vraiment leur virulence et leur raison d'être. Il subsiste encore cette réaction chez moi parce que c'est par ce nœud que ma mère obtenait de moi tout le reste, parce que c'est là le cœur de la situation de chantage infantile que j'ai subi. Alors il reste à dénouer ce nœud et à faire la preuve, non pas en parole, ceci est facile, la démonstration en est aisée, que ce n'est pas toi que je vise dans cette réaction, même si je t'atteins. Il reste surtout à faire la preuve pratique que ce n'est pas toi qui es en cause, c'est-à-dire à ne plus t'atteindre toi, malgré toutes les associations les plus ancrées. Voilà où j'en suis. Je te dis cela pour que tu saches où j'en suis, pour que tu ne sois pas perdu dans une géographie impossible, faite non seulement de ce que tu vois, mais aussi de ce que je ne te dis pas. C'est déjà assez d'avoir cela à affronter et à subir. Mais le seul moyen de ne pas perdre la tête, c'est de savoir ce qui est en cause, précisément, et sans équivoque. La solution, elle dépend d'autre chose que d'une lettre. Tu sais de qui elle dépend, de moi, de Laurent, et aussi de qui pourra t'abandonner de tes appréhensions lorsque quelque chose aura sur ce point commencé à vraiment changer. En moi. Je vais voir Laurent demain et lui parlerai de tout cela. Il n'y a pas de raison pour que ce dernier obstacle ne soit pas levé assez vite, maintenant qu'il est seul sur cette route devant nous. Assez sur ce sujet. Je veux te dire aussi que j'aimerais bien aller avec toi dans les bois dimanche. Ça nous ferait du bien. Si tu le désires, tu pourrais aussi venir dormir samedi soir. Nous pourrions partir plus tôt dimanche pour prendre un air libre dont nous avons tous les deux besoin. À toi, Louis. 1960, lettre manuscrite en tête de l'école normale supérieure. Le 14 avril, jeudi 10h30. Mon chourin, ta lettre d'hier qui lève le voile d'une énigme. Vraiment, les arrière-pensées ont la force de produire jusqu'à l'équivalent des faits. Parlons clairement, car ce n'est pas la peine de recevoir des coups de l'imaginaire. Sache que, 1. J'attendais hier ton appel et pas un autre. Pour une bonne raison, Claire ne sait pas où j'habite, j'ajoute qu'elle doit rentrer aujourd'hui à Genève et que je ne la verrai pas. C'est une question réglée depuis longtemps. 2. Le type de l'hôtel n'est pas le type de l'hôtel. C'est un client qui, tous les matins depuis 3 jours, passe son temps à appeler et attendre des appels d'un peu partout. Je l'avais dérangé à plusieurs reprises pour savoir si la sonnerie était pour moi. Puis de guerre là, c'était toujours pour lui, attendait dans le jardin. Le patron et ses acolytes étaient à servir les clients. Alors cet hôtel est agréable par son laisser-aller, mais ça se paie. Je m'en aperçois. Ceci est la vérité, je pense qu'il est superflu de te faire un dessin. En tout cas, tu as raison de parler du ton de cet échange malheureux. Je pense même à la pensée qui t'a assailli après ma voix de samedi. Cette pensée m'a fait mal. Je ne voulais pas te le dire, mais puisque c'est déjà du passé et que ce passé peut éclairer le présent, autant que tu le saches pour mesurer l'espace de l'imaginaire et ses méfaits. Je sais bien que cet imaginaire pousse sur tout un passé et sur ce qu'il faut appeler le silence de cette existence végétale que je mène ici. Là, j'y suis pour quelque chose, je le reconnais. J'aurais dû t'écrire et te dire ce qu'était cette vie, ou plutôt, car cette vie est simple, et je t'en ai tout dit dans une lettre, vélo, plage, nage, campagne. Te dire ce qu'étaient ces démons dont je t'ai parlé à demi-mot et dont j'essaie de me défaire, et dont je me suis en partie défait. Et à certains moments, comme hier soir, totalement défait. Mes démons. Une inquiétude tenace et vide à propos de tout et de rien. Une sorte de quasi-anxiété qui m'a rarement lâché. J'ai terriblement fouetté et avide. En descendant de voiture, en me demandant comment allaient se passer ses vacances, en tombant dans la famille, un brolio inextricable, en essayant à distance, le téléphone, d'expliquer à ma sœur qui devait venir, ne pas venir avec François ce qui se passait, en faisant l'effort de laisser tout cela derrière moi, ces conflits, ces engluements, ces fausses manœuvres, en arrivant ici, en affrontant la solitude, en la trompant sans trop y croire, avec Augustin, Ina, les gosses, en retrouvant ici un pays, des chemins où je n'avais pas été seul, en tenant à distance ses souvenirs et ses fantasmes, en me jetant dans de longues courses et de longues marches du type « je serais bien obligé de faire le chemin de retour ». Ça, c'est le fond sur lequel j'ai vécu. Dans l'ensemble, j'ai bien combattu et j'ai eu quelques rares moments de paix et de joie. La plage, un jour où j'y étais absolument seul, cette prodigieuse chevauchée, elle était rude, mais j'avais de l'entraînement les jours d'avant, dans des bois merveilleux, des tapis de violettes comme jamais je n'en vis, des petits torrents vivants, en des lieux où l'on ne voit que sécheresse l'été, la transfiguration du printemps dans des terres d'ordinaire brûlées. Et hier soir, puisque j'en parlais après cette journée hantée par toi, par ce moment d'incompréhension et d'angoisse, un dîner chez Augustin, seul en face de mon assiette, à ma droite, un couple d'Allemands, 50 ans, gentils, jouant aux cartes, en face de moi, tout un groupe d'industriels parlant de Khrouchtchev. Je suis allé errer sur le port et j'ai trouvé, au bout de la jetée, un groupe de 3 garçons, pour le plus beau des dessins de Picasso. 2 écoutant la tête sur un genou, la jambe haut pliée sur le rebord d'un parapet, le 3e au milieu jouant sur une haute guitare des airs comme ceux que nous entendîmes un soir à l'école avec les Espagnols. Admirable. Cette guitare est vraiment le plus beau des instruments. Tout cela dans le silence de la mer et de la nuit. Lui au milieu, de face, assis, les 2 autres tournés vers lui, mais sans le regarder. Tous les 3 de 18 à 20 ans, mal habillés, inconnus, mes démons enfuis devant cette beauté. Dans ces instants, je me sens capable de tout, de chasser tous les mythes et de conjurer tous les fantômes, pas seulement pour moi, pour toi aussi. Cette paix en moi était aussi la certitude que si tu avais été là, rien n'aurait altéré notre joie, et tu l'aurais touché, senti, tout doute balayé. Oui, je sais, il y a dans ta lettre un autre mot, que je sois capable d'assumer mes désirs. Il se résume pour moi dans un autre mot qui est préalable, que je sois capable d'avoir des désirs. Je veux dire, de vrais désirs, pas des demi-désirs, des désirs à moitié désirs, à moitié mythes ou chimères. Peut-être fallait-il pour cela suivre les voies détournées des monts et des bois, et de la plage et de la solitude. En tout cas, mon silence n'était pas la peur de mes désirs, mais bien leur inactualité, enfin leur manque d'objet, ou leur absence, ou tout simplement leur inopportunité. Ni le temps, ni le lieu, sans doute. Voilà ma vie, mon chourin. J'essaie de ne pas la subir et de la conduire vers une issue, un accord avec soi, sans ombre, d'où peut naître un peu de bonheur, pour moi et pour ceux qui sont ma vie. Tu peux te dire que ce bonheur, je ne le pense pas sans toi, et qu'un peu de vraie joie dans tes yeux et ton cœur est ce que je veux pour toi et moi. Par-dessus tout, j'attends ton mot demain ici, puis je partirai pour Marseille. Je t'appellerai sûrement de là-bas. Je t'embrasse de toute mon âme, le Louis. 1964, lettre dactylographiée. lundi, le 27 juillet 1964, veut te dire une chose importante, le bien que me font tes lettres. Puis difficilement faire des phrases complètes, mais c'est ce que je veux dire. 1. La qualité théorique de tes lettres, ton analyse des phases de l'Œdipe avec l'impact des problèmes de la vie quotidienne est impressionnante. Quand je pense qu'il paraît que tu as des difficultés à manier les concepts. 2. L'exact discernement de ce qui peut être dit et de ce qui ne peut pas être dit. Tout ce que tu m'écris tombe à pic, juste où il faut, sans une fausse note, ni sans aucune surenchère, ni hâte. 3. Le sens de ce qui se passe à côté de ce qui est dit. La façon dont, à travers ce que tu m'écris, il est clair que tu comprends ce que je suis en train de vivre ici, justement dans les gestes et actes de la vie quotidienne. La façon dont tu sais ajuster tes lettres, et toi derrière elles, à ce qui se joue ici dans les épreuves de la vie quotidienne. Tout cela est parfait d'intelligence, de discernement et de tact. L'usage que tu sais faire maintenant du temps. Je crois que sous ce rapport, on est en train de désamorcer sérieusement une de nos obsessions les plus dangereuses, celle de l'angoisse de la distance, du silence, etc. On écrit, mais c'en est fini d'écrire pour se précipiter mutuellement vers une sorte d'épreuve catastrophique de la présence. Tu as accepté mes télégrammes comme des moyens de communication normaux dans une période désertique et non comme des signaux d'alarme. Tu leur as donné la réponse juste, sans hâte, leur répondant par lettre. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Tes lettres ne sont plus coincées dans une situation d'urgence. Elles sont traversées par le temps et le portent en elles. De mon côté, je suis arrivé à peu près à neutraliser ma propre panique. J'ouvre tes lettres avec confiance, comme je les reçois. Et chacune d'entre elles m'aide à réduire de plus en plus l'ancienne zone du péril. Je puis me consacrer à ce qu'elles m'apportent. Que tu aies su adopter ce style, ce rythme, comme que tu aies su mettre de côté la poste restante, ça m'est infiniment précieux. Je n'en dis pas plus, mais je pourrais en dire très long. Je te fais confiance pour remplir les blancs de mon discours. Alors mon discours lui-même modifié par l'acquis ci-dessus. Mardi matin, à l'instant ta lettre sur mon passé origine, tu me tends la main, tout y est honnête, et tu me fais voir plus loin que mon regard. Tu me permets de continuer par-delà le blocage actuel. Encore une fois, ahuri par ton discernement et, le correcteur en moi ne s'endormira jamais, par l'aisance avec laquelle tu manies ce monde périlleux des concepts, comme si mutation conceptuelle soudaine chez toi, sans passer par les longueurs, lenteurs de l'apprentissage scolaire. Merci de toute mon âme. Même si ça touche au vif, rien à craindre. La seule vie qui me reste actuellement est celle de ces blessures à vif d'où peut ressurgir la vie. À toi, Louis. 1968. Lettre manuscrite en tête de l'école normale supérieure. L'enveloppe, Madame Rittmann, Hélène, au bon soin de l'hôtel ambassadeur, Châtel-Guyon. Sur l'enveloppe. Si Madame R avait changé d'adresse, je demande à la direction de l'hôtel ambassadeur d'avoir l'amabilité de tenter de faire suivre cette lettre à l'adresse actuelle. Merci. Signature Louis Althusser. Alors, l'adresse est barrée, suivie du cachet, n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur. Le 20 mai 1968. Lundi. Ça fait 2 jours que rentrer ici, en tout cas. Un samedi avec toi sous la pluie et Bécard. Tous les matins, quand je me relève du sommeil, c'est comme si j'étais dans une maison à qui il manque une moitié. Une moitié qu'appeler. Une moitié à qui parler. Toi. Il faut faire le rétablissement. Où suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Et retrouver l'absence à vivre. Encore un effort et je me dis qu'il faut passer par là pour en sortir, bien que je vois mal comment. Mais il faut faire confiance aux inventions de la nature. Et toi, petit, ton adresse provisoire, je t'y écris, espoir qu'on voudra bien faire suivre, mais rien n'est moins sûr. La grève générale s'étend et on ne sait pas jusqu'où elle aura la ressource d'aller. À l'hôpital, ici, on ne voit pour ainsi dire plus les médecins. Ils sont à droite ou à gauche, en réunion, discussion politique. Après les épouvantables choses de la fin de la semaine dernière, il y a comme une sorte d'effervescence qui se ressent jusqu'ici. 50 kilomètres, tu te rends compte? Comment vais-je me raccrocher à tout cela? Je ne puis le concevoir, et c'est sans doute trop tôt. J'aime mieux profiter du sommeil qui est bon la nuit. Le jour, je suis proprement abruti. Ce n'est pas une vraie cure de sommeil qu'on me fait, mais une sorte d'abrutissement général au Valium. T'es mon seul point fixe dans cette mer sans horizon. T'embrasse de toute mon âme. Le Louis. 1969, le 12 septembre, lundi. Ça, mon chourin, alors, comme tu as raison. Que l'investissement d'énergie employé à contrôler les mécanismes de l'inconscient et leurs effets, combien, ô combien, on voudrait pouvoir les employer à d'autres objets, et faire ceci ou faire cela, faire ce que déjà on fait, mais mieux, plus vite, à moindre coût, avec de meilleurs rendements, et faire d'autres choses qu'on n'est pas fichu de faire parce que l'inconscient s'y interpose ou fait de telles difficultés que mieux vaut y renoncer. Bref, réaménager les investissements. Leur montant, leur destination, leur variété, leur équilibre, leur circulation aussi, ô combien qu'on aimerait pouvoir le faire. Et aussi, on économiserait sur les difficultés objectives qu'on rencontre dans la vie et qui sont objectives et qui, comme telles, demandent des soins, de la réflexion, du travail. Ces difficultés, si on pouvait les aborder toutes nues, sans l'écran des supplémentaires difficultés que ce putain d'inconscient tordu il interpose entre nous et elle, sans l'écran de ces difficultés qui non seulement redoublent les premières, mais dédoublent leur redoublement, multiplient les premières dans leur redoublement, et par-dessus le marché font prendre leur redoublement pour les difficultés redoublées et dédoublées, c'est-à-dire font croire que les difficultés objectives sont insurmontables, en tout cas plus difficiles qu'elles ne sont, et inspirent ces craintes hallucinantes de ne pas être à leur hauteur. Ce vertige de l'échec, ou cet autre vertige qui fait que tout succès est converti en échec, qui le hante comme sa vérité, etc. Je te cause, mais tu sais d'avance ce que je veux dire. Ou encore, qui inspire cette autre crainte qu'on n'aura jamais le temps, qu'il file plus vite que tout ce qu'on peut faire ou doit faire pour le remplir, et qu'on sera toujours pris de court que le temps qu'on maîtrise ou essaie de maîtriser est et sera toujours pris de court, donc trop court, un quelque chose de trop petit par rapport à ce qu'il faudrait. Ça doit tenir au fantasme du sexe. Sûr. Bien sûr, on sera toujours fait d'une certaine manière, comme je l'expliquais à Yves hier, qui avait fort besoin de se l'entendre dire. La cure, c'est comme un type qui a une vieille bagnole. Disons une voisin 1935. Il y a des ratés dans le moteur, elle ne tourne pas rond, va lentement, et puis dans la direction, il y a quelque chose qui l'empêche de tourner à droite. Elle ne tourne qu'à gauche, comme Prigent, qui ne pouvait pas prendre d'autre itinéraire, comme me le dit un jour Françoise, parce qu'il savait seulement tourner à gauche et qu'il ne pouvait, lui, tourner à droite. Bon, le mécanicien, il te rarrange la bagnole, redresse, rafistole, met les choses en état de marche normal. La bagnole, au lieu de 60, elle se tape le 90. Au lieu de ne pas pouvoir tourner à droite, la direction remise en place, elle tourne aussi à droite. Reste que c'est une voisin 1935 et que de toute façon, elle est différente des Renault 1935 et à plus forte raison des Citroën 1966. Mais cette dernière comparaison, je la laisse tomber vu le jugement de valeur qu'elle contient. Qu'elle est faite d'une certaine manière, qu'elle a des capacités définies, qu'elle a, comme on dit, des caractéristiques, comme tout caractère au sens du caractère de quelqu'un a ses caractéristiques définies, et que le jeu dont dispose la pathologie et aussi la cure est défini par ces caractéristiques. Les possibilités de transformation sont définies par les caractéristiques. Si tu connais pas l'anglais, c'est pas de te faire analyser qui te fera causer en anglais du jour au lendemain. Si tu cours lentement, c'est pas l'analyse qui te fera courir au-dessus de tes possibilités. Mais au moins, tu feras le plein de tes possibilités au lieu de rester loin en arrière. Et aussi, tu t'apercevras que tu as aussi des possibilités que tu ne soupçonnais pas, vu qu'elles étaient masquées, étouffées, par ton putain de torsion d'inconscient. La cure, ça rectifie le dispositif existant pour lui donner la disposition de ses capacités que l'ancienne disposition du dispositif avait séquestrées. Alors celle-là, proprement, la cure, elle les libère, comme des inconnues toutes nouvelles pour le propriétaire du dispositif qui se doutait pas qu'il avait ses trésors dans ses murs. Murés dans ses murs. C'est là que la comparaison avec le mécanicien qui retape la voisin 1935 est insuffisante, car ce qui se passe en réalité, c'est que le mécanicien qui retape la voisin 1935, il croit avoir affaire à une voisin 1935. Et puis il découvre, quand il change les dispositions des pièces du dispositif, que c'était pas, comme il le croyait, une voisin 1935, mais une Mercedes 1945, ou telle autre bagnole insoupçonnée, vu qu'elle n'était pas fabriquée réellement sur le modèle officiel dont elle portait la marque et l'année d'âge. Ah, c'est comme ça qu'il faut rectifier la définition de l'objet sur lequel porte la rectification. Faut prendre ça au sérieux. À la fois se dire que la cure, c'est pas un miracle qui vous donne des capacités que vous avez pas, mais en même temps, de savoir que la cure a cette propriété de libérer, révéler des capacités qu'on ne soupçonnait pas parce qu'elles étaient murées et avait fait croire, par leur absence de capacités murées, que comme on les avait pas, on avait seulement les capacités visibles avant la rectification. On peut dire que c'est une surprise pour tout le monde. Le patient d'abord, à tout seigneur et tout souffrant, tout honneur, mais l'analyste lui aussi. Vu que sous ce rapport, il peut bien se douter de quelque chose quand il soigne, mais sans pouvoir dire exactement qu'il va surgir telle ou telle capacité nouvelle. Je dis tout ça pour... parce que si ça contrarie les rêves qu'on peut nourrir dans l'analyse ou les rêves de ce qu'on peut attendre d'une analyse, un miracle, ça contrebat en même temps la même trouille de tout candidat à l'analyse de risquer de perdre même le tout petit peu de sécurité et de tranquillité que lui assure, malgré et dans la souffrance, sa névrose. Ça permet de lui dire, la cure, ça ne vous fera pas perdre ce que vous avez de bien, ça libérera vos capacités, celles que vous avez tant de mal et qui vous coûtent tant d'investissement, d'énergie à mettre en œuvre, et ça libérera aussi d'autres capacités qui sont actuellement murées par le dispositif actuel de votre inconscient. Vous n'aurez pas de miracle, mais vous aurez des surprises réelles, qui sont proprement les seules et les seuls vrais miracles, des surprises sur vous-même. Un mot encore, Chourin, pour te dire que le Yves est parti hier soir tard d'Avignon, où je l'ai conduit, il a naturellement failli manquer son train, de sa faute et non de la mienne, et que je suis seul dans la maison. Je vais voir comment on s'entend, apparemment bien jusqu'ici. J'ai des tas de choses matérielles à faire, ça va m'occuper, j'aviserai. Il y a, comme je te le disais, de fortes chances que je rentre directement à Paris bientôt, mais si ça va bien à la maison, entre elle et moi, et si de ton côté ça va aussi, il se peut que je prolonge un peu, dans le sens dont nous avions parlé quand on en a parlé, comme une chose qui peut avoir ses effets bénéfiques de faire un peu l'expérience de la solitude ici. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait une solitude, car la maison est une vraiment bonne, très bonne maison. Et puis tu y es encore, dans mes bras. Moyennant quoi, les bras, on vous embrasse très, très tendrement. Le Louis. 1970. Lettre manuscrite. 19 janvier. Mon petit, je suis passé à ton bureau à 17h, tu étais parti, j'avais auparavant téléphoné de chez Diatkine, mais sans t'avoir pour te dire que Diatkine m'a tenu le discours suivant avant que je dise quoi que ce soit. Il ne faut pas jouer avec votre réaction prévue, j'ai appelé les Leliers au Vésinet, ils vous attendent tout de suite. Un choc pour cesser l'anxiété et quelques jours, deux, trois, pour un traitement nouveau que je tiens d'Ajouria à qui j'ai téléphoné. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il m'a dit qu'il avait prévu ma réaction, car tout ne tient qu'à un fil. Il m'a dit qu'il fallait que tu l'appelles chez lui ce soir, même tard. Il sera là pour te répondre et t'expliquera peut-être mieux que moi. On a tenté de t'appeler de chez lui, j'ai fait un saut à ton bureau, puis ici, valise hâtive, et je m'en vais finalement avec ma propre bagnole. Je t'en prie, sois sans crainte pour moi. Appelle Diatkine. Je suis convaincu que l'issue se rapproche. Aie confiance, mon tout petit. Et sache que j'emporte de toi ce morceau de nuit et de matin où tu t'es endormi dans mes bras. Je t'embrasse. Je t'aime. Ton Louis. 1974. Lettre manuscrite. 9 janvier. Jour 1. Je suis dans une grande chambre, bâtiment neuf en face de Saint-Victor. On m'a bien fait dormir ces deux nuits dernières. Et on m'a fait deux anafranils, en goutte à goutte, le matin. 1h30 pour que ça coule dans la veine. Manifestement, Madame L ne veut pas prendre de responsabilité des chocs et met en train le troisième traitement, par l'anafranil. D'un côté, si ça pouvait marcher, ça m'arrangerait. On va voir ce qu'en pensera Diatkine. La Leliers m'a dit aussi qu'elle souhaitait que je reste, pour le moment, sans visite. Je poserai aussi la question à Diatkine, quand il ne manquera pas de me voir. Le voyage avec Étienne a été d'une grande prudence de conduite et d'une grande parcimonie de mots. Ainsi me voilà prisonnier de moi, dans cette chambre sans personne, où je ne tente que de dormir et où il faudra bien que je tente un peu plus, lire, pour tenter de survivre. Je suis encore déchiré par ton dernier message et tes derniers mots. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis le dos au mur. Il faut devenir quelque chose et quelqu'un. Si je pouvais alors t'aider comme je veux, je t'embrasse, ma chérie, comme je t'aime, de toute mon âme. 1980, lettre dactylographiée en tête de l'école normale supérieure, vendredi 17h. Mon chourin, j'ai reçu hier ta lettre. La poste ne semble pas très bien marcher. J'espère que tu as eu mes deux longues lettres. J'ai, comment dire, pris note au sens fort de ce que tu me dis dans ta lettre. Réflexion faite, je pense que ce qui est en train de se passer avec le recul et notre éloignement, que tu ressens comme la distance d'un paquebot ancré dans la nuit en haute mer, comme on les voit à Port de Bouc, n'est pas si mal que ça. Je parle au moins pour moi, et puis te dire ceci. Dans les quelques derniers jours, les choses ont pris un tour que je pense décisif. Toute mon activité s'est centrée sur le travail et le piano, où je fais de grands progrès, tu verras. Le reste est devenu secondaire. Je n'ai pas du tout d'angoisse à quelque sujet que ce soit. Je ne suis plus excité, plus de fuite en avant comme solution, plus de provocation, etc. Simplement, je crois que j'ai centré mes intérêts et me sens autrement équilibré, serein, et aussi efficace sans avoir besoin de la ramener. Tu verras. Vu longuement Guiton tout à l'heure, que j'ai emmené, qui m'a emmené voir les petites sœurs de Jésus dans la belle maison, près du garage, Ce sont des merveilles, ces femmes. On est invité, toi et moi, à dîner chez elles jeudi prochain. J'ai emmené la mère supérieure voir notre appartement, lui ai donné fleurs et livres. Les affaires en cours, centre, édition, etc., marchent de manière espérée, à la stupéfaction de nombre de gens. Quelques-uns en avaient eu vent par moi. Tu verras. Je crois que tu peux rentrer dans la confiance. Ce soir, je dîne chez Anita. Je t'embrasse de toute mon âme. Je crois que je commence sérieusement à vivre. Et je veux tout faire pour que tu sois enfin un peu heureuse de moi. Le Louis. 1980. Lettre dactylographiée. Avril. Mardi. 00h30. Chourin. Je suis désemparé de t'avoir dit tout cela. Je voulais te cacher ma réaction, puis j'ai pensé que le mieux était de te dire ce qui me hantait. Voici comment je suis dans cette phase. Mais je te l'ai dit d'une manière qui, au lieu de permettre une prise de distance, a dû exprimer d'autant plus que j'étais pris au piège d'une force plus forte que moi. C'est vrai. Sous quelque face que je la retourne et l'aborde ou la traite, c'est une force actuellement plus forte que moi. Il doit y avoir une sourde et terrible nécessité à ce qu'elle prenne cette forme. J'ai dit à Diatkin que j'étais inquiet. Ce n'est pas trop dire. Je lui téléphonerai demain matin pour le voir. Je vais prendre un peu plus de gouttes ce soir et dormir aussi longuement que possible. Je n'irai pas demain à la gymnastique. Aussi à cause de mon genou que je connais et qu'il vaut mieux laisser en repos 2 jours de plus. Fais-moi la confiance de croire que, dans ce qui nous est à toi d'abord et à moi aussi de dures épreuves, je tiens par-dessus tout à toi et du fond du cœur. Elle.